Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, aujourd'hui 16e épisode, la menée et le libéralisme.
Le 15 août 1832, le pape Grégoire XVI faisait paraître sa première encyclique. Mirari vos. Longuement, amèrement, il se plaignait des peines qui lui étaient infligées, des avanies qu'il subissait. Effectivement, ses états, les états pontificaux, Ravenne, Bologne, Imola, Forlì, Rome, étaient soulevés contre lui. Or, il avait beau exercer une sévère répression, les prisons pouvaient bien se remplir, les émeutiers et les meurtriers sortaient de terre partout, cependant que les fidèles partisans du pape n'étaient plus en sécurité pour leur vie. Il avait lié son sort aux pouvoirs les plus réactionnaires, au tsar écrasant l'héroïque insurrection polonaise, à l'empereur d'Autriche qu'il avait appelé au secours et dont les troupes couvraient ses états. L'encyclique de Grégoire XVI rejetait ensuite les thèses de ceux qui préconisaient l'autorisation du divorce et le mariage des prêtres. On voit que ces questions ne sont pas nouvelles. Puis il s'opposait véhémentement, avec des termes d'une extrême dureté, aux partisans de la liberté de conscience, de la liberté de la presse et de la séparation de l'Église et de l'État. Sur la liberté de conscience, il écrit « De la source empoisonnée de l'indifférentisme, c'est-à-dire de cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants, qu'on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité », de la source empoisonnée de l'indifférentisme, donc, découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses, à laquelle a plani la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions, qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. Après s'en être pris à la liberté de conscience, Grégoire XVI condamne la liberté de la presse avec une égale vigueur. À cela se rattache la liberté de la presse, liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur, et que certains hommes osent, avec tant de bruit et tant d'insistance, demander et étendre partout. Nous frémissons, vénérables frères, en considérant de quel monstre de doctrine, ou plutôt de quel prodige d'erreur, nous sommes accablés. Erreur disséminée au loin, de tous côtés, par une multitude immense de livres, de brochures et d'autres écrits, petits, il est vrai, en volume, mais énormes en perversité, d'où sort la malédiction qui couvre la face de la terre et fait couler nos larmes. Il est cependant, ô douleur, des hommes emportés par un tel excès d'impudence qui ne craignent pas de soutenir opiniâtrement que le déluge d'erreurs qui découle de là est assez abondamment compensé par la publication de quelques livres imprimés pour défendre, au milieu de cet amas d'iniquité, la vérité et la religion. Mais c'est un crime, assurément, et un crime réprouvé par toute espèce de droit, de commettre de desseins prémédités en mal certain et très grand, dans l'espérance que peut-être il en résultera quelque bien, et quel homme sensé osera jamais dire qu'il est permis de répandre des poisons, de les vendre publiquement, de les colporter, bien plus de les prendre avec avidité, sous prétexte qu'il existe quelque remède qui a parfois arraché à la mort ceux qui s'en sont servis. Un peu plus loin, le pape porte une condamnation générale et sans exception ni nuance de la Révolution. Nous avons appris que dans des écrits répandus dans le public, on enseigne des doctrines qui ébranlent la fidélité, la soumission due au prince et qui allument partout les torches de la sédition. Il faudra donc bien prendre garde que, trompés par ces doctrines, les peuples ne s'écartent des sentiers du devoir. Que tous considèrent attentivement que, selon l'avertissement de l'apôtre, il n'est point de puissance qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, résister au pouvoir, c'est résister à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attirent sur eux-mêmes la condamnation. Les droits divins et humains s'élèvent donc contre les hommes qui, par les manœuvres les plus noires de la révolte et de la sédition, s'efforcent de détruire la fidélité due aux princes et de les renverser de leur trône. Les préceptes sacrés de la religion chrétienne condamnent l'orgueil démesuré et détestable de ces hommes qui, brûlant d'une passion sans règle et sans frein pour une liberté qui ose tout, s'emploie tout entier à renverser et à détruire tous les droits de l'autorité souveraine apportant au peuple la servitude sous les apparences de la liberté. Enfin, Grégoire XVI ne veut absolument pas de la séparation de l'Église et de l'État. Nous ne pourrions augurer des résultats plus heureux pour la religion et pour le pouvoir civil des désirs de ceux qui appellent avec tant d'ardeur la séparation de l'Église et de l'État et la rupture de la concorde entre le sacerdoce et l'Empire. Car c'est en fait avéré que tous les amateurs de la liberté la plus effrénée redoutent par-dessus tout cette concorde qui toujours a été aussi salutaire et aussi heureuse pour l'Église et pour l'État. Et il lance cet appel au roi, au reste que les princes, notre cher fils en Jésus-Christ, favorise de leur puissance et de leur autorité les vœux que nous formons avec eux pour la prospérité de la religion et des États. Qu'ils songent que le pouvoir leur a été donné non seulement pour le gouvernement du monde, mais surtout pour l'appui et la défense de l'Église, qu'ils considèrent sérieusement que tous les travaux entrepris pour le salut de l'Église contribue à leur repos et au soutien de leur autorité. Même plus, qu'ils se persuadent que la cause de la foi doit leur être plus chère que celle même de leur empire et que leur plus grand intérêt, nous le disons avec le pape Saint Léon, est de voir ajouter de la main du Seigneur la couronne de la foi à leur diadème. Établis comme les pères et les tuteurs des peuples, ils leur procureront un bonheur véritable et constant, l'abondance et la tranquillité, s'ils mettent leurs principaux soins à faire fleurir la religion et la piété envers le Dieu qui porte écrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». L'encyclique ne nommait pas Félicité de l'amener. Ce n'était pas nécessaire. Il était évident pour tous que ces hommes entraînés par un excès d'impudence, amateurs de la liberté la plus effrénée, étaient bien l'amené et ses disciples. Dieu est la liberté. Telle était la devise qu'ils avaient donnée au journal L'Avenir, qu'ils avaient fondé en 1830, peu de jours après les Trois Glorieuses. Cinq libertés leur paraissaient essentielles, celle de conscience, d'enseignement, de presse, d'association et de suffrage, le suffrage universel. La liberté de conscience, selon eux, suppose la séparation de l'Église et de l'État, non dans leur mutuelle ignorance, mais dans la rigoureuse distinction entre le politique s'exerçant dans le pluralisme des opinions et la vérité religieuse qui ne doit sa diffusion qu'aux forces qu'elle porte en elle. Ainsi donc, en 1830, un homme lançait à l'autorité catholique un appel éloquent pour qu'elle s'arrachât à l'absolutisme et au principe de coercition et qu'elle admît l'idéal de la grande révolution française, la liberté. Dieu est liberté, religion et démocratie. Qui était cet homme ? Félicité de Lamennais, Félie pour les intimes, naquit le 19 juin 1782 dans la vieille cité bretonne des Corsaires et de Chateaubriand, à Saint-Malo, dans une famille d'armateurs récemment anoblie. Sa mère mourut quand il avait 5 ans, laissant 5 enfants, parmi lesquels un des garçons, Jean-Marie, et jouera d'ailleurs un rôle assez considérable, fondant en particulier la congrégation des frères de Plohermel. De l'éducation de Félicité se chargea son oncle Desaudrey, un homme d'excellente culture, que les événements devaient amener d'un déisme à la mode des Lumières à une foi chrétienne intense. Sur lui, comme sur bien d'autres, l'ouvrage retentissant de François-René de Chateaubriand, Le génie du christianisme, exerça une influence décisive. La nature du jeune Félicité présentait un ensemble assez extraordinaire de lumière et d'ombre, de qualité et de défauts. Grêle, avec un visage long et osseux, une apparence physique ingrate, il souffrit dès l'enfance et pour toute la vie d'une santé déficiente. Et l'un des symptômes de son état fut une extrême nervosité. Dès les premières années apparaissent en Lamennais les manifestations d'une sensibilité physique excessive en même temps que tous les signes de la vigueur cérébrale. Il acquiert, en autodidacte, par une boulimie de lecture dans la bibliothèque de son oncle, un savoir considérable. C'est ainsi, par exemple, qu'il acquiert une connaissance approfondie du latin, du grec, de l'hébreu, de l'allemand, de l'italien, de l'anglais et de l'espagnol. Si l'on ajoute à cela qu'il prit part comme exécutant à des réunions musicales de Saint-Malo, il aima et comprit toujours profondément la musique, et qu'il se passionna quelque temps pour les mathématiques, on aura une idée de l'ouverture et de l'avidité de son esprit. Mais cette extrême activité du jeune Félie n'était pas seulement cérébrale. Une vitalité étonnante anime son corps maladif et grêle. Il monte à cheval, il nage avec fureur, il chasse et il fait de l'escrime. Vers 18 ans, il a même un duel et blesse son adversaire. Il est possible que ce duel ait été en rapport avec un autre incident romanesque. C'est vers cette époque qu'il s'est pris d'une jeune fille. Sans succès, il ressentit de cet échec une amertume intense. Lamennais paraît avoir été gauche et timide dans la compagnie des femmes. Par contre, les jeunes gens s'attacheront à lui avec ferveur. Et ce détail de sa biographie est assez caractéristique. Pendant les quelques mois qu'il passe à Londres, en 1815, il a 33 ans. Il est humilié par Lady Jerningham et une affection passionnée le lie au jeune Henry Moorman. Son évolution vers la ferveur religieuse et l'état sacerdotal est lente. il ne communie pour la première fois qu'à 22 ans. Mais ensuite, sous l'influence de son frère Jean-Marie et de son directeur de conscience, l'abbé Caron, il se voue à la propagande religieuse et fréquente les prêtres de la Compagnie de Saint-Sulpice. Il est tonsuré à Rennes en 1809 et 7 ans plus tard, il est ordonné sous-diacre à Saint-Sulpice, diacre à Saint-Brieuc et enfin prêtre à Vannes le 19 mars 1816 à 34 ans. Il est hors de doute que l'amené à la veille et au lendemain de ces 3 cérémonies fut en proie à une terrible agitation intérieure et assailli par une nouvelle vague de neurasthénie, de détresse, d'épouvante même. Le miracle de paix et de joie qu'il attendait de la grâce divine n'eut pas lieu. Lorsque revenu à Paris, il célébra sa première messe à la chapelle des Feuillantines. Il avait le visage couvert de sueur et le corps pris de tremblements. Aussi n'a-t-on pas manqué de souligner ce fait en même temps que des passages significatifs de sa correspondance en cette nouvelle période de sa vie pour en inférer que le grand écrivain breton était entré dans la carrière ecclésiastique contre son gré, sous la pression de conseilleurs aussi imprudents que lui-même. C'est la thèse du Lamennais prêtre malgré lui, cher à Robert Valéry Radeau. On l'a mené hâtivement préparé au sacerdoce sans avoir pu pénétrer la doctrine chrétienne dans son essence. Il y a évidemment beaucoup de vrai dans cette thèse, encore que ses connaissances théologiques fussent très au-dessus du commun. Son immaturité affective et surtout sa nature dépressive le rendait terriblement vulnérable. Lamennais mit longtemps pour parvenir à la notoriété. Qu'est-il, jusqu'en 1817, un enseignant obscur dans le collège de Saint-Malo, un pauvre précepteur, l'auteur en collaboration avec son frère d'ouvrages de propagande chrétienne dont on ne connaît plus que les titres, réponse aux principales objections des athées, les philosophes modernes jugés par eux-mêmes, le guide spirituel, traduit du Speculum Monachorum de Louis de Blois, les réflexions sur l'état de l'Église en France au XVIIIe siècle et sur sa situation actuelle, la tradition de l'Église sur l'institution des évêques. Le livre qui lance Lamennais dans le grand public, c'est l'essai sur l'indifférence en matière de religion, dont le premier tome, il y en aura 4, paraît en 1817 et connaît un énorme succès. Ce premier Lamennais que l'essai sur l'indifférence révèle au grand public est bien différent de celui que condamne l'encyclique Mirari Vos. On peut même dire qu'il épouse alors la plupart des thèses pontificales en fonction desquelles il sera plus tard condamné. Le principe fondamental chez l'apologiste breton, c'est l'attachement passionné qu'il porte à la religion, à la cause de Dieu. Le pire de tous les états de l'âme, dit-il, c'est l'indifférence. Il faut croire. L'incroyance est la ruine non seulement des individus, mais des sociétés. Or, qu'est-ce qui permet la foi ? Le sentiment, il est fragile, il est versatile. La raison, elle est chétive. Une autorité est nécessaire. C'est celle de l'Église catholique, inébranlable, constante, infaillible, qui s'incarne dans celle de son chef suprême, le souverain pontife. Le dogme chrétien s'accorde, au reste, avec la vérité inscrite au fond de la conscience universelle, du fait de la tradition primitive dont le Créateur éclaira l'humanité naissante. L'intérêt de l'Église est primordial pour l'intérêt des hommes, le premier devoir de l'État est de le servir. Telles sont, résumées en gros traits, les thèses du premier Lamennais, proches de celles d'un Louis de Bonald ou d'un Joseph de Maistre. On pourrait certes s'arrêter à les discuter comme elles le furent sous la Restauration passionnément, par les laïcs comme par les clercs. Disons seulement que les termes de traditionnalisme, d'absolutisme, d'antigallicanisme, d'ultramontanisme, c'est-à-dire d'attachement à l'autorité romaine, servent à les désigner, et il va de soi que ce Lamennais-là abhorrait la Révolution qui avait tant affligé l'Église. Un nouveau Lamennais, très différent, opposé même au précédent, apparaît en 1829 avec sa brochure « Progrès de la Révolution et de la guerre contre l'Église ». Le Malouin se retourne contre les Bourbons et s'ouvre au libéralisme politique, essentiellement pour deux raisons. Lamennais est écœuré par la situation politique et religieuse. Le régime entretient une religion à la fois hypocrite et coercitive qui a pour conséquence le sacrilège et le blasphème, pourtant puni de mort en principe, et un anticléricalisme d'une virulence inouïe. Pour lâcher du lest, une ordonnance du gouvernement de Martignac, du 15 juin 1828 interdit aux jésuites d'enseigner. Ensuite, et peut-être surtout, Lamennais devient sensible à cet idéal de liberté qui, comme une foi nouvelle, soulève les peuples d'Europe. Ce que la force de l'État est incapable d'apporter à la cause de Dieu. Pourquoi la liberté ne le donnerait-elle pas? Il faut donc un État libre dans une Église libre, une Église libre dans un État libre, sans aucune sujétion de l'un ou de l'une à l'autre. Un Lamennais nouveau est arrivé. La suite, ce sont les disciples réunis à la Chênaie dans la congrégation de Saint-Pierre, école de formation de propagandistes de la foi, les Lacordaire, les Montalembert, les Gerbet, les Salinis, les Charles de Coux, les Rohrbacher, les Maurice de Guérin et les autres, exceptionnelles réunions de talent et de ferveur. Ce sont les 18 mois de l'avenir, le journal catholique le plus remarquable qui ait existé. C'est le voyage à Rome de Félie avec Lacordaire et Gerbet, puis Montalembert, l'approbation qu'on attend, qu'on implore du pape, l'audience accordée après des mois d'attente, mais parfaitement anodine, insignifiante, le départ désespéré de la ville éternelle et la nouvelle reçue à Munich, où on est allé rendre visite à des théologiens amis de Linger, Goeres, Schelling. C'est le coup d'assommoir de l'encyclique Mirari Vos. Le cœur déchiré, Lamennais et ses amis s'inclinent. Le 10 septembre, il divulgue la déclaration suivante. Les sous-signés, rédacteurs de l'Avenir, membre du Conseil de l'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse, présents à Paris. Convaincu, d'après la lettre encyclique du souverain pontife Grégoire XVI en date du 15 août 1832, qu'ils ne pourraient continuer leurs travaux sans se mettre en opposition avec la volonté formelle de celui que Dieu a chargé de gouverner son Église, croit de leur devoir comme catholique de déclarer que, respectueusement soumis à l'autorité suprême du vicaire de Jésus-Christ, ils sortent de la lice où ils ont loyalement combattu pendant 2 années. Ils engagent instamment leurs amis à donner le même exemple de soumission chrétienne. En conséquence, 1. L'avenir provisoirement suspendu depuis le 15 novembre 1831 ne reparaîtra plus. De l'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse est dissoute à dater de ce jour. Toutes les affaires entamées seront terminées et les comptes liquidés dans le plus bref délai possible. Paris, le 10 septembre 1832, et c'est signé Félicité de la Menée, Philippe Gerbet, Charles de Cou, comte Charles de Montalembert, Henri Lacordaire. Or, la Menée n'allait pas tenir parole. Sans doute, il ne reprend pas la publication de l'avenir, aussi bien de lourdes difficultés financières l'en empêchent. Sans doute, ses amis se dispersent et la chaîne se vide. Mais dès 1834, il fait paraître un plaidoyer brûlant, c'est un véritable brûlot, en faveur de la Révolution, pour en proclamer la légitimité et la nécessité. Peut-être peut-on faire une lecture pieuse de cet ouvrage. Les chapitres sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la providence, la prière seraient bienvenus du haut de la chaire. Et je vous avouerai que je m'en sers volontiers en semblables circonstances. Le style est admirable. On a dit mille fois qu'il est biblique et prophétique, semblable à l'Évangile. Un Évangile même plus posé que le vrai, lequel a ses fantaisies, ses sortes d'ironie et même de comique. La Menée est constamment posée, calme, solennelle, recueillie, convaincue, grave, à la fois profond et d'une simplicité et d'une justesse exquise. Les contemporains disent que les typographes eux-mêmes, quand ils en avaient imprimé une phrase, faisaient cercle pour l'entendre lire ensemble et que, du livre, ils savaient des passages par cœur. Oui, les paroles d'un croyant sont un grand livre, un maître-livre, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature romantique, et avec les pensées de Pascal et le génie du christianisme de Chateaubriand, l'un des trois ouvrages chrétiens qui ont le plus impressionné les peuples. Mais plus encore qu'un appel à la justice et à l'amour qui s'y trouve, certes, et qui est éloquent, on ne peut pas ne pas y voir une invitation à la révolte contre les rois, qui sont autant de tyrans, et contre les prêtres, qui se font leurs complices pour l'asservissement des peuples. Pauvres de tous les pays, unissez-vous. Émus, bouleversés par la misère ouvrière, des journées de travail de 17 heures, des enfants de 5 ans attachés à des machines, des familles d'indigents croupissant dans la promiscuité et la saleté de caves sans air, accablés par l'oppression étrangère de la Pologne, de l'Irlande, de l'Italie, l'absolutisme pesant sur la Russie et l'Espagne et tant d'autres nations, voyant le monde plongé dans la nuit, la Menée appelle et voit pointer l'aurore. On n'analyse pas un tel livre. Il faudrait le lire en entier. Je relèverai seulement un ou autre passage parmi tant d'autres appels aussi éloquents à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. La Menée est le premier des démocrates chrétiens. Son livre est un cri d'amour pour le peuple et les peuples, de révolte et de haine contre les rois. Qu'on entende ceci par exemple, c'est la naissance de la tyrannie. En vérité, je vous le dis, ce fut comme au jour où l'abîme rompit ses digues et où déborda le déluge des grandes eaux. La peur s'en alla de cabane en cabane, car il n'y avait point encore de palais. Et elle dit à chacun des choses secrètes qui le firent frissonner. Et ceux qui avaient dit « Nous sommes rois !» prirent Anglaise et suivirent la peur de cabane en cabane. Et il se passa là des mystères étranges. Il y eut des chaînes, des pleurs et du sang. Les hommes, effrayés, s'écrièrent « Le meurtre a reparu dans le monde !» Et ce fut tout, parce que la peur avait transi leurs âmes et ôté le mouvement à leurs bras. Et ils se laissèrent chargés de fer, eux et leurs femmes et leurs enfants. Et ceux qui avaient dit « Nous sommes rois !» creusèrent comme une grande caverne. Ils y enfermèrent toute la race humaine, ainsi qu'on enferme des animaux dans une étable. Et la tempête chassait les nuages, et le tonnerre grondait. Et j'entendis une voix qui disait « Le serpent a vaincu une seconde fois, mais pas pour toujours !» Après cela, je n'entendis plus que des voix confuses, des rires, des sanglots, des blasphèmes. Et je compris qu'il devait y avoir un règne de Satan avant le règne de Dieu. Et je pleurais et j'espérais. Et la vision que je vis était vraie, car le règne de Satan s'est accompli et le règne de Dieu s'accomplira aussi. Et ceux qui ont dit « Nous sommes rois » seront à leur tour enfermés dans la caverne avec le serpent. Et la race humaine en sortira. Et ce sera pour elle comme une autre naissance, comme le passage de la mort à la vie. Oh. Encore ce passage sur les libertés. Le Père Céleste n'a point formé les membres de ses enfants pour qu'ils fussent brisés par les fers, ni leur âme pour qu'elle fût meurtrie par la servitude. Il les a unis en famille, et toutes les familles sont sœurs. Il les a unis en nations, et toutes les nations sont sœurs. Et quiconque sépare les familles des familles, les nations des nations, divise ce que Dieu a uni, il fait l'œuvre de Satan. Et ce qui unit les familles aux familles, les nations aux nations, c'est premièrement la loi de Dieu, la loi de justice et de charité, et ensuite la loi de liberté, qui est aussi la loi de Dieu. Car sans la liberté, quelle union existerait-il entre les hommes ? Il serait uni comme le cheval est uni à celui qui le monte, comme le fouet du maître à la peau de l'esclave. Si donc quelqu'un vient et dit « Vous êtes à moi », répondez « Non, nous sommes à Dieu qui est notre Père et au Christ qui est notre seul Maître. » Tout cela implique une ambiguïté. Une équivoque que vous aurez sans doute déjà ressentie au nom de l'amour, l'amener invite à la révolte, à la violence. « Jeune soldat, où vas-tu ? » demande une page célèbre. « Je vais combattre pour Dieu et les autels de la patrie. Que tes armes soient bénies, cette fois bénies, jeune soldat. » Il serait élémentaire que l'amené essaie de définir les principes, les conditions, les circonstances de la violence légitime. Il n'en fait rien. Aucune analyse, aucune réflexion dialectique. Les paroles d'un croyant ne sont pas autre chose que le cri d'une passion. S'il suscita beaucoup d'admiration, le livre, on s'en doute, souleva bien des critiques. Par exemple, celle d'un des meilleurs théologiens du temps, l'abbé Bautin. Ce livre, disait-il, est un véritable pamphlet politique sous une forme mystique. C'est le contrat social présenté sous forme apocalyptique. aux puissants, aux riches, aux princes de la terre, toutes les prévarications, tous les crimes, et aussi toutes les malédictions. Parce qu'ils ne sont pas le peuple. Aux faibles, aux pauvres, aux petits, justice, vertu, et aussi toutes les bénédictions. Et cela parce qu'ils ne sont pas rois. D'où suit, comme conclusion nécessaire, l'excitation du peuple à la haine, à la révolte, afin de briser le joug des puissances établies, afin de détruire, au nom du Christ, le règne de Satan, dont les princes sont les ministres. Toutes ces sentences sont rendues comme des oracles en style d'inspiré, ce qui met fort à l'aise quand on veut agir sur les masses. D'abord parce que celui qui se donne pour prophète est dispensé de prouver, et ensuite parce que la multitude est d'autant plus disposée à croire que ce qu'on lui dit est plus merveilleux. C'est ainsi qu'on fanatise les peuples par l'abus criminel de moyens qui devraient servir à éclairer et conduire les hommes. Monsieur de Lamennais s'est lassé de parler en philosophe. Les choses ne vont pas assez vite par cette voie. L'influence n'est pas assez large. Cette fois, il a voulu parler au peuple et il s'est fait prophète et apôtre, il faut bien le dire, prophète de malheur et apôtre du désordre. Le 25 juin 1834, Grégoire XVI condamnait les paroles d'un croyant par une nouvelle encyclique, Singulari Nos. Les sentiments catholiques de Lamennais ne devaient pas s'en relever. Les propositions portées par le livre étaient considérées, je cite, comme fausses, calomnieuses, téméraires, impies, scandaleuses, conduisant à l'anarchie, contraires à la parole de Dieu, déjà condamnées par l'Église, spécialement dans les Vaudois, les Wyclifites, les Hussites. L'encyclique reprochait à l'auteur d'avoir, dans une suite d'assertions aussi injustes qu'inouïes et par un prodige de calomnie, représenté le pouvoir comme contraire à la loi divine, bien plus comme l'œuvre du péché, comme le pouvoir de Satan lui-même, de briser tous les liens de soumission et de fidélité envers les princes, de lancer de toutes parts les torches de la sédition et de la révolte, d'étendre partout la destruction de l'ordre public, le mépris des magistrats et la violation des lois. Ce livre était en un mot « minutum volumine, sed ingentem perversitate », petit par la taille, mais immense de perversité. La foi catholique du prêtre breton ne résista pas à cette nouvelle condamnation. Il découragea ses amitiés de la veille et s'enfonça dans la solitude. Il cessa de dire la messe, rejeta le dogme chrétien auquel il n'accorda plus qu'une valeur de symbole et s'arrêta à une religiosité vague, marquée par l'admiration du Christ et une ferveur passionnée pour le peuple. Il afficha un républicanisme intransigeant, mais garda toujours ses distances par rapport au socialisme, aux différents socialismes, dont on sait qu'ils apparaissaient alors avec vigueur dans l'histoire. Toujours, il tint pour infrangible le droit à la propriété privée. Il écrivit différents ouvrages, « Les affaires de Rome »,« Le livre du peuple », l'esclavage moderne, de la religion. Il collabora à tel ou tel journal, Le Monde, Le Constituant, mais à partir du moment où il eut quitté l'Église, son crédit diminua. Ses livres ne connurent plus que des tirages insignifiants en comparaison des 400 000 exemplaires des paroles d'un croyant. Son heure était passée, sa physionomie avait perdu de son rayonnement. Respecté des uns ou haï des autres, il était isolé et sa voix ne portait plus comme jadis. À deux reprises, au cours des 20 dernières années qu'il vécut encore, Il connut un regain de notoriété. À la fin de 1840, il publia une brochure, Le pays et le gouvernement, où il attaquait férocement les ministres de Louis XVI. Traduit devant la cour d'assises pour diffamation et condamné à 1 an de prison, il fut incarcéré à Sainte-Pélagie, où il subit l'intégralité de sa peine. L'opinion s'émut et beaucoup tinrent à le réconforter, ainsi Chateaubriand, Malouin comme lui, qui se fit son visiteur assidu. En 1848, à l'avènement de la Deuxième République, Lamennais fut élu député de Paris à la Constituante. Il y siégea sur les bancs de l'extrême gauche, la Montagne, mais sans prestance et sans voix, idéaliste confondu par les affaires politiques, il ne joua pas un rôle significatif, non plus qu'à partir des élections législatives de mai 1849, qui le virent péniblement élu sur la liste du Comité démocratique socialiste. Victor Hugo, dans « Chose vue », l'a croqué en quelques traits incisifs. Lamennais, figure de fouine avec l'œil de l'aigle, cravate de couleur en coton mal noué, redingote brune usée, vaste pantalon de nankin trop court, bas bleus, gros souliers. La décoration d'un représentant à la boutonnière. Voix si faible qu'on vient se grouper au pied de la tribune pour l'entendre et qu'on l'entend à peine. Il a son chapeau devant lui et comme il est petit, son chapeau le cache. Il passe son temps à se rogner les ongles avec un canif. Il mourut d'une pleurésie à 72 ans, le 16 janvier 1854. Malgré les supplications de certains de ses proches, particulièrement de sa nièce, Madame de Kertangy, il refusa de voir un prêtre. La police prit des dispositions pour empêcher tout rassemblement de foule et quelques personnes seulement le suivirent au cimetière du Père-Lachaise où son corps fut jeté dans la fosse des indigents. C'est ce qu'il avait demandé. « Je veux être enterré au milieu des pauvres et comme le sont les pauvres, on ne mettra rien sur ma fosse, pas même une simple pierre. Mon corps sera porté directement au cimetière sans être présenté à aucune église. » Telles ont été la vie et la mort pathétique de Félicité de Lamennais. Le personnage a été passionnément discuté. La gauche chrétienne en a fait un de ses héros de prédilection. Était-il appelé à réconcilier l'Église avec les idéaux de la Révolution ? L'homme, avec son génie littéraire, était plus qu'un passionné, un fanatique. D'abord Rome, la papauté, fut tout pour lui, et ensuite le peuple, sans distinguo, sans nuance, avec une obstination totale, une importance sans limite accordée à ses propres vues. Grégoire XVI, qui était un réactionnaire achevé, eut tort, certes, de ne rien accorder à ces idées chrétiennes devenues folles qu'étaient les idéaux de la Révolution. Mais il fallait que Lamennais et ceux qui la suivaient fussent bien naïfs pour s'imaginer que le pape pouvait ériger en dogme, dans l'absolu, la liberté, l'égalité et la mort des tyrans, sans d'énormes difficultés, non seulement diplomatiques, mais doctrinales. Pour autant, le personnage n'est pas sans mérite. D'abord, c'est un témoin de cette vérité capitale et si souvent oubliée, qu'il n'y a pas de vérité de l'Évangile sans prédilection pour les pauvres. Ensuite, il a été l'un des initiateurs de ce christianisme social dans lequel il a entraîné Montalembert, Lacordaire, Ozanam, Gerbet et combien d'autres, mouvement indispensable et salutaire, et qui n'a évidemment pas fini de porter ses fruits.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 17e épisode, un voltairien à Bayonne. Ciao !